Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, quelques petites phrases qui vont nous situer. Ensuite, nous irons dans un livre qui est, enfin, lu, pas forcément bien compris, pas toujours très connu, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Alors, on commence 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, et c'est Paul, l'apôtre, le missionnaire, qui écrit ces lignes. Il dit ceci: « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Voilà pour cette première lecture. Il faut quand même avouer que Paul, lorsqu'il s'exprime dans ses écrits, particulièrement dans ce genre de lettres, eh bien, il est difficile à comprendre. Mais bon, on va essayer de saisir les choses. Il est parlé de sage, il est parlé de scribe, il est parlé de raisonneur, il est parlé d'intellectuel. Il est parlé de philosophie, enfin tout ça, c'est dans la même veine. Ce qui lui fera dire à un moment donné, eh bien, les Juifs sont avides de miracles pour croire en Dieu. Les Grecs, finalement, eh bien, ils se repaissent dans leur intellect de toutes sortes de philosophies. Mais nous, les chrétiens, Paul le dit, nous voulons savoir une chose, Jésus, seulement Jésus et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Alors, on va maintenant, eh bien, nourrir un peu cette pensée. Et on va aller on va aller lire dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, ça se trouve après les psaumes, après le livre des proverbes. C'est un petit livre de quelques chapitres, hein, mais on va voir ce dont il s'agit. Alors, livre de l'Ecclésiaste, c'est pas difficile, chapitre 1er, verset 1er. On peut pas faire mieux, hein. Voilà, Ecclésiaste. Allez-y, prenez votre temps. Alors, il est dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » Alors, on peut y découvrir certainement le grand personnage qui était Salomon, roi d'Israël. Salomon serait l'auteur présumé de ce livre. Et il est dit après « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Alors, c'est quand même assez énigmatique tout ça, parce qu'on avait parlé de la sagesse des hommes, la sagesse du monde. On a parlé, en effet, du miraculeux, du surnaturel, qui était l'objet des investigations et des recherches des Juifs. Et puis, on a l'affirmation par Paul, qui était lui-même juif, mais converti à Jésus-Christ, qu'il n'y avait qu'un seul moyen de parvenir à la science, à la connaissance universelle, au salut naturellement, eh bien c'était Jésus. Jésus-Christ qui a été fait pour nous, sagesse, rédemption, c'est-à-dire que nous avons tout pleinement dans la personne de Jésus, nous avons tout pleinement. Alors voilà, on va essayer de prendre en considération tout cela. L'Ecclésiaste n'est pas seulement un livre, c'est aussi un homme. Un homme qui nous parle, donc je vous l'ai dit, Salomon. Un prédicateur, parce que la traduction du mot ecclésiaste, c'est le prédicateur, c'est celui qui parle, celui qui prêche, particulièrement. Hein, ça veut dire tout simplement, eh bien, le prédicateur qui va exposer tout le long de ces chapitres de ce livre de l'Ancien Testament avec une certaine complaisance, suffisance, mais avec probablement beaucoup de sincérité, le bilan de sa vie et le bilan de ses expériences. Alors, quand on sait que Salomon était le représentant de l'idéal humain sur la terre, c'est-à-dire qu'il a tout eu, il a tout vécu, et il a partagé des choses extraordinaires, et dans sa vie de roi, dans sa vie d'homme, dans sa vie sentimentale, alors n'en parlons pas, dans sa vie d'homme riche, dans sa vie de possesseur, parce qu'il avait des palais, il avait des chevaux, il avait tout ce qu'un homme peut désirer, dans bien des domaines, il avait des jardins fabuleux, il avait des gens qui travaillaient pour lui, il avait une armée, c'était un empire. Alors c'est vrai qu'il représente l'idéal du bonheur humain. Et il parle un peu de tout ça, et il en parle d'une manière assez particulière, comme s'il était désabusé. Je ne sais pas si vous avez pénétré un petit peu la pensée de l'Ecclésiaste. C'est comme si, finalement, après avoir tout goûté, il en est blasé. Vous savez, les gens qui font, qui ont tout, à un moment donné, eh bien, plus rien ne les intéresse. Et c'est un peu cela, mais je ne crois pas que c'était tout à fait le cas de Salomon. C'était certainement pour nous faire la démonstration à nous, qui sommes dans une société où il y a beaucoup de choses. Alors, on est riche avec la fortune que l'on a, hein. Alors voilà. On peut être riche avec peu de choses, et être riche, riche de beaucoup de choses, et puis entre être fabuleusement riche de toutes sortes de possessions matérielles et être, comment on dirait, misérable comme Job, malheureux, vous comprenez ? Alors c'est ça le livre de l'Ecclésiaste, c'est une confrontation, et c'est quelque chose qui doit être interprété avec cette conception, méfiez-vous d'un certain bonheur. Parce que le bonheur que vous croyez n'est peut-être pas forcément le bonheur. Et puis, Jésus le reprendra, il dira, mais soyez heureux vous qui pleurez. Soyez heureux vous qui êtes affamés. Parce que finalement, vous allez connaître un bonheur qui est beaucoup plus grand et qui est une autre valeur que tout ce que vous pouvez avoir autour de vous et qui peut être aussi un sujet de péché et de convoitise. Parce que c'est un piège, tout ça. Alors, il va exposer le bilan de ses expériences. Il va dire, ceci, je l'ai goûté. Ceci, j'y ai goûté. Ceci, j'ai fait cela, etc., etc. Et puis, en contemplant toutes ces âmes, il dira, mais finalement, l'homme vient sur la terre, puis il va pas y rester, il va mourir. Alors, c'est bien gentil, hein. Mais pour qui cela sera-t-il? Ça nous rappelle un petit peu ce que nous avons dit dimanche dernier. Or, voici. Il le dit, ici, sur cette terre, après avoir tout essayé, il dira, mais tout est vanité. Finalement, on s'est donné du plaisir. On a pu avoir ce que les autres n'ont pas. On était des privilégiés, on était vraiment des nantis. Mais tout est vanité. Et vanité, dira-t-il, parce que c'est l'introduction du livre, et on le retrouve pratiquement à chaque chapitre, vanité des vanités, vanité, tout est vanité. Alors on pourrait avoir peut-être l'impression qu'on a affaire à un dépressif. Hein, c'est un mauvais jour, et véritablement, il voit tout en noir. Non, il n'a pas le moral, hein, notre Salomon, notre Ecclésiaste. Alors, quand il parle de tout cela, il va prendre différents aspects de la vie, il va parler du plaisir. Le plaisir, il savait ce que c'était, hein. Et il dira, en final, eh bien, c'est vrai, le plaisir, ça existe, mais le cœur reste toujours insatisfait, il reste toujours assouvi. C'est comme un mirage, le plaisir. Vous y allez, vous en voulez, et puis finalement, eh bien, quand vous avez passé, quand il est derrière vous, quand vous l'avez consommé, eh bien, il vous reste encore avec eux. Vous avez encore plus faim et plus soif qu'auparavant. Et puis, il parlera de la richesse. Quand on sait que la Bible nous dit que l'or était plus nombreux que les pierres à Jérusalem, si vous êtes à Jérusalem, il y a quelques pierres. Hein. C'est vraiment un pays de pierres. Et la richesse, constatation faite par ses écrits, il dira, mais voilà, un homme a pu travailler toute sa vie, il a pu donner véritablement le meilleur de lui-même, il s'est construit un empire. Il a travaillé jour et nuit, et puis il s'aperçoit qu'il a des descendants naturellement et des héritiers, et les héritiers en deux temps de mouvement vont écrouler tout ce qu'il a gagné. Ça arrive hein, aujourd'hui, hein. Ça arrive. Il parlera donc de la sagesse. Il dira, ben maintenant, moi je vais me réfugier dans la sagesse. J'ai essayé la richesse, j'ai essayé le plaisir, mais il y a peut-être quelque chose, la sagesse, le nec plus ultra. Et il dira, eh bien, tout simplement, la sagesse n'aboutit pas et ne rend compte de rien. La sagesse, c'est quelque chose de tellement vaste. Le passé, le présent, l'avenir, qu'est-ce que l'on retient de la sagesse des anciens? Puisque on se fait toujours des promesses, on fait des vœux. Et quelque part, eh bien, tout ça, ça s'évapore comme la rosée. Ça disparaît comme les nuages. Ça n'aboutit pas. Parce que plus on cherche, moins on trouve. Alors, je ne veux pas parler du progrès technique, la technologie d'aujourd'hui, parce que bon, il y a des avancées. Mais, vous savez, tous ces gens qui sont des rêveurs, hein, et qui se disent, eh bien voilà, on va bien finir par trouver la solution des problèmes mondiaux et ceci, et puis on s'aperçoit qu'il y a toute une accumulation. Plus on avance, dès qu'on ouvre un chemin, une route, on s'aperçoit qu'il y a mille et un problèmes qui viennent s'ajouter. Alors, il faut encore plus de sagesse et toujours plus. On n'y arrive pas. Salomon s'est dit, tiens, on va faire de la justice maintenant. Voilà. Parce que peut-être que tout ça, ça ne marche pas parce qu'il manque de justice. La justice, il dira, mais tous ceux qui sont en position de juger les autres, les magistrats et tous ces gens-là, ils trafiquent. Ils sont là pour essayer d'arranger leurs petites affaires. Et Jésus nous en parle quand il parle du juge inique. Hein. Il en parle bien. Un homme inique, et il est juge. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Faire le bien. Bien sûr que tout le monde est d'accord pour faire le bien. Eh bien, on fait le bien, mais on s'apercevra qu'on va être complètement submergé parce que les méchants, ils courent partout dans tout le monde et sur la terre. Et ils triomphent toujours. Vous faites le bien, ça ne sert à rien. Ben, c'est le psaume 73, hein. Je me suis efforcé de faire tout ce qui était pour plaire à Dieu. Et puis je me suis aperçu que quelque part, j'ai regardé, oh, les méchants, tous ceux qui sont des créatures détestables sur la terre, regardez comme ils sont en bon point, ils sont gros, gras et tout ça, ils ont de la fortune, ils ont tout ce qu'il faut, et ils subsistent et le juste meurt, et eux, ils disparaissent pas, ils font encore toujours de plus en plus de mal. Alors faire le bien, ça sert à rien. Ça, c'est la version de... Hein, c'est pas la mienne, hein. Alors, pratiquer la religion, parce que les juifs étaient des gens très religieux. Alors on dira, mais oui, c'est vrai, c'est bien, ça monte de l'âme, c'est le cœur, mais Dieu est si loin. Oh, on aimerait tellement qu'il soit plus près de nous. Et il juge, ah oui, parce que Dieu juge, et puis il répond pas à nos cris. C'était le négativisme, vous savez, de ce temps-là, des gens qui pensaient comme ça. Qui nous fera voir le bonheur? Nous dit David, c'était pas pour lui, mais c'était parce qu'il parlait de sa nation, il parlait de son peuple. Alors, ben Dieu est impuissant pour écouter les prières et pour faire quelque chose à leur religion, ça sert à rien alors à ce moment-là. Et il le dira, c'est avec un petit peu d'ironie, il dira, mais vous savez, vous voulez vous approcher de Dieu, mais ne vous approchez pas trop près de lui. Il le dit dans l'Ecclésiaste, hein, parce que c'est pas la peine d'attirer trop son attention, c'est un peu de la mythologie, vous savez, cette crainte mythologique, cette peur que les gens qui avaient des religions mythologiques, alors, parce que finalement, faut pas montrer trop de zèle. Regardez le pauvre Job, ça lui est arrivé, hein. Heureusement qu'il a su pourquoi il souffrait. Hein. Il était intègre et droit, et puis tout à coup, c'est toute la catastrophe du monde qui lui tombe sur la tête. Alors ne vous approchez pas trop de Dieu. Et il y a même une phrase qui est une phrase sibylline. Il est dit, mais prends garde à toi quand tu entres dans la maison de Dieu et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Alors ce qui a permis à beaucoup de gens en disant, bah, maintenant je ne vais plus finalement à la synagogue, je ne vais plus dans le temple, parce que si je dis quelque chose, ça va me retomber dessus. C'est ça hein, ce que ça veut dire, hein. Attention, parce que tu vas être pris au piège par tes paroles. Et ça, c'est une vision très négative, très mauvaise, finalement. Et on va voir qu'il y a une autre façon de penser. Mais c'est un peu ce que pensent les gens aujourd'hui. Hein. La joie, prenons le plaisir le maximum, parce que demain, on va mourir. Bon. Et puis la sagesse, bah, vous savez, il faut la chercher dans toutes les philosophies, d'ici ou d'ailleurs, hein, de tous les continents. Hein. La justice, il n'y en a pas, parce que tout est pourri dans ce monde. Pratiquer la religion, ça ne sert à rien, puisque Dieu, finalement, on se demande s'il existe, et ceci, et cela. Et il poursuit, il dira, mais qui sait si le souffle de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête va en bas? Vous l'avez lu, ça, hein? Oui? Vous pourrez le relire, hein? Après, vous allez pouvoir... hein? Voilà, c'est des grandes questions, mais c'est des questions qui tournent en rond. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est l'homme qui n'a pas de vision, l'homme qui n'a pas d'espérance. C'est comme ça que les choses sont données, parce que c'est assez brutal dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a tout la négativité finalement du genre humain, de l'espèce humaine, et d'un côté, il y a la proclamation de Dieu. C'est ça justement ce qui est assez étonnant. C'est en contraste tout ça. Alors qui sait? Et c'est bien la grande question du livre de l'Ecclésiaste. Qui sait? En s'imaginant que quand on sait, on est sauvé. Que c'est par la compréhension, c'est par le savoir, que finalement, eh bien Dieu va nous exaucer. Hein, qui sait? Parce que pour Salomon, qui exprime et qui écrit dans ce livre, tout est une question de savoir. Or, la Bible nous dit que c'est pas ça du tout. C'est pas une question de savoir, mais c'est autre chose. Et il va exhorter tout le temps de son écriture dans ce livre, il va exhorter les autres à ne pas trop se tourmenter l'esprit devant l'énigme de l'univers. Et on n'est pas sorti de l'auberge, même en 2013. Parce que depuis que le monde est monde, depuis que les philosophes ou tous ces gens qui ont essayé d'expliquer l'univers, son fonctionnement, la création et l'évolution naturellement, parce que etc. Et on s'aperçoit que quelque part, on complique les choses. Et pourtant, l'Ecclésiaste dit, mais allez, si c'est trop fatigant pour toi, tu prends du bon temps. Maintenant, si tu as envie de chercher, tu vas chercher. Mais attention, parce que quand tu vas chercher, tu vas trouver encore des choses qui vont te compliquer la vie, parce que plus tu vas chercher, plus tu vas te rendre malade. Voilà. Et le monde est dans cette frénésie aujourd'hui, hein. Ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, il faut abdiquer notre intelligence. Dieu nous a donné une intelligence. Mais il nous a donné une intelligence avec une direction particulière. C'est en passant pour lui que l'on peut comprendre les choses. Et c'est avec non pas seulement avec la raison sèche ou la raison humaine seulement, mais c'est avec la raison du cœur. Où c'est un cœur qui est rempli de cette raison de Dieu. Alors à ce moment-là, eh bien, il y a comme un voile qui se déchire et qui nous entrouvre. Eh bien, peut-être pas tout. Peut-être pas toutes les réponses à nos perplexités, mais qui nous montre un petit peu où se trouve finalement, eh bien, le vrai savoir, la vraie connaissance, la lumière, la vraie lumière. Donc, ce n'est pas une question de savoir. Et nous voyons que là, il va exposer. On pourrait dire, là, ça mérite le mot de philosophie, philosophie de Salomon, hein, philosophie de l'Ecclésiaste. Hein, et il en tire la conclusion à un moment donné que si l'homme savait, il serait heureux. Ça, c'est pas garanti, parce que si l'homme savait ce que l'on sait, ce que les autres ne savaient pas avant nous, et s'il savait ce que nous savons aujourd'hui, il verrait qu'on est bien malheureux. Qu'on n'est pas plus heureux qu'eux, enfin, sur le plan matériel, si. Parce que quand on voit les pauvres gens qui ont vécu dans les siècles passés, bon, je sais qu'il y a de beaux reportages sur les rois, etc., etc., tranquille, hein. Ils étaient une petite cour, là, et je peux vous dire qu'ils vivaient bien, ils avaient tout le pays pour les servir, mais les autres, je peux vous dire que c'était pas tout à fait la même chose. Hein. Mais aujourd'hui, bon, ça a pris une allure un peu plus démocratique, hein, où là, il y a un partage, des richesses, etc., etc., mais voilà, si l'homme savait, il serait peut-être heureux. Bien que dans ce même livre, il nous ait dit, et ça, c'est peut-être avis aux amateurs, de recherche, d'investigation. Il est dit dans le chapitre 1er, verset 18 d'ailleurs, hein, je cite, « Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. » Pas se tromper avec le bonheur. Hein. Et oui, moi j'ai toujours été étonné quand... Moi, je lis la Bible depuis quelques jours, enfin quelques semaines ou quelques mois, mais je me suis toujours aperçu que ça, c'était un verset qui était assez préoccupant. Hein, faut pas en faire une raison, faut en faire une raison pour rien savoir, pour rien apprendre, de dire je préfère être un ignorant et vivre heureux. C'est pas ce que je veux dire. Mais avec beaucoup de sagesse ou avec beaucoup de, on augmente. Enfin, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Et c'est vrai dans un certain sens. Ah, c'est terrible, hein. Et ça, il faut quand même le... Alors, on sent que dans cette écriture de l'Ecclésiaste, de Salomon, si vous aimez mieux, en l'occurrence, dans ce livre, qui est un livre déconcertant, parce qu'on marche sur deux chemins à la fois, en parallèle. L'un, c'est le négativisme, c'est la philosophie humaine existentialiste, qui n'amène qu'à la mort et au désespoir, et puis l'autre, c'est une formidable espérance. C'est la lumière qui brille sur le sentier, vous comprenez, la lampe à mes pieds, ça c'est la même chose. Alors, c'est vrai que c'est un livre déconcertant, mais c'est un livre où on sent comme un glaçon, quelque chose de froid qui vient, parce que c'est tellement humain. Voilà, c'est la réflexion d'un homme, hein, en tous les cas. Un homme qui, finalement, est bien sur un chemin où il n'est pas avec Dieu. Et puis après, il se mettra dans l'autre position, où il verra la différence. Ben, c'est le rationalisme de notre époque. Hein. C'est, nous pourrions dire, le scepticisme où la foi est battue en brèche parce qu'on dit à quoi ça sert la foi. Ah, mais c'est sûr que si les gens ont la vision de ce que la foi religieuse, ça c'est sûr qu'ils vont pas courir après Dieu. Hein. Si c'est pour aller dans des églises, pèlerinage ou les choses comme ça avec du ritualisme, du traditionnalisme, ça leur fait pas envie, hein, pas du tout. Hein. Je crois pas en tous les cas. Hein. Parce que ça, c'est la nourriture de l'âme. On va nourrir l'âme, mais l'esprit sera complètement en dehors. Or que la révélation, finalement, de la Bible, c'est pas le corps et c'est pas l'âme, c'est pas la gestuelle religieuse qui est importante. C'est pas l'âme et ses émotions, avec ses pleurs ou ses rires, ou son allégresse et ses tristesses. Non, c'est l'esprit qui est au-dessus de tout cela. Et c'est ça le vrai message de l'Évangile. C'est l'esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le prient, ou ceux qui s'approchent de lui, l'adorent, le prient, en esprit, en vérité. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Et Jésus va mettre les choses en place et ça s'inspirera. Finalement, et bien l'apôtre Paul, quand il dira ces paroles, mais la lettre tue. mais l'Esprit vit ici. Et c'est bien pour ça qu'il est nécessaire d'une nouvelle naissance. Autrement, sans cela, eh bien, il n'y a rien du tout. Donc, rationalisme terrible de nos sociétés d'aujourd'hui. On a eu des auteurs qui étaient terribles, hein, quand vous lisez les écrivains de la fin du 19e siècle, ou même jusque, je pense à Sartre en particulier, ça je peux vous dire que ça vous donne envie de vivre, hein. Et c'est terrible, hein, tout cela. Mais on a façonné, on a modelé toute une génération, tout un, par la philo, hein, par pas mal de gens comme ça, et des jeunes, hein, se dit, bah, Dieu n'existe pas, hein. Ouais. Dieu n'existe pas, il n'existe plus. L'homme est l'homme, et c'est l'homme qui est Dieu, finalement. Alors, qu'est-ce qui manque à l'Ecclésiaste pour, finalement, pouvoir secouer son pessimisme? On est dans un monde pessimiste, non? Vous croyez pas? Écoutez, on se nourrit tous les jours. Mais tous les jours. À toutes les heures. France Info. BFM Télé. 24 heures sur 24. Enfin, je suis en train de faire de la publicité, si vous voulez. Mais toujours est-il que toutes les nouvelles que vous avez, c'est que des catastrophes, hein. Non, mais c'est terrible, hein. Il n'y a peut-être que dans le sport. Et encore, on pleure quand il y en a un qui a perdu de chez nous. Bon, mais c'est pour vous dire que on se nourrit avec ça. On est comme les Athéniens, dont le pessimiste les avait atteints. Parce que ils passaient toute leur journée à raconter des histoires et à raconter des nouvelles. Et aujourd'hui, on en est comme ça, hein. Et c'est ça, hein, le pessimisme. C'est quelque chose, nous sommes dans une société morbide. Ouais, c'est pas une société de vie, hein, même si on gesticule et on fait toutes sortes de choses. On est dans une société qui est profondément malade. Malade dans son âme, malade dans son esprit. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour mener une vie utile? Qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir une vie utile pour soi, utile pour Dieu, utile pour les autres? Qu'est-ce qu'il a manqué à Salomon, l'Ecclésiaste? Qu'est-ce qui lui a manqué pour que justement, eh bien, il puisse dire des choses autres? Il aurait dû se pencher un peu plus sur la vie de son peuple, sur l'histoire d'Israël, sur les grandes révélations qui avaient été données par Dieu à tous ces grands hommes, qui avaient présidé à la constitution de ce peuple unique, de ce peuple magnifique que l'on appelle Israël naturellement, et qui étaient les détenteurs, eh bien, de la pensée de Dieu, en quelque sorte le chandelier qui brille parmi les nations, qui brillait, qui brille, qui brillera encore davantage bientôt, quand Jésus sera revenu. Eh bien, s'il s'était penché un peu plus, l'homme négatif, l'homme pessimiste, eh bien, il aurait appris que Dieu est un Dieu personnel et il est vivant. C'est pas un Dieu de loin, c'est un Dieu de près, que l'on peut rencontrer, c'est l'Évangile, hein. Un Dieu qui aime les hommes, qui aime sa créature, qui appelle les hommes, qui les sauve, et qui nous amène à considérer que nous ne sommes pas tout seuls sur terre, qui met à mort notre ego, notre égoïsme, et qui nous donne finalement d'avoir une autre vision de notre environnement. C'est-à-dire que nous sommes tous frères et sœurs, créateurs, créés par un seul Dieu, un Dieu qui aime tous les hommes. C'est ça, justement, et ce qui fait la négativité, finalement, de notre monde aujourd'hui, c'est chacun pour soi. On est rentré dans une société d'individualisme, et les gens seront encore plus malheureux, ils seront encore plus isolés. On n'a pas fini de parler de solitude, de détresse, de dépression, d'isolement, et de gens qui finissent et qui finiront seuls. C'est terrible. Alors voilà les choses. Pour avoir un cœur et non pas seulement une raison, pas seulement avoir du cérébral ou de la matière grise, mais également de pouvoir s'émouvoir des souffrances de son prochain, d'avoir compris qu'on ne trouve son bonheur qu'en cherchant aussi, eh bien, celui des autres dans le partage, mais que tout cela, eh bien, c'est Dieu qui conduit et qui dirige toute chose. C'est lui qui est le fondement et la base de la pyramide de toute chose, à l'horizontale et à la verticale. Voilà. Ben c'est ce que Jésus nous est venu nous dire, hein. C'est un résumé, hein. C'est exactement ce que Jésus est venu nous dire dans l'Évangile. Et c'est un appel à se pencher sur nous-mêmes, comme le fils prodigue. On connaît ce qui s'est passé, qui est rentré en lui-même. Et à partir du moment où il est rentré en lui-même, eh bien la lumière s'est faite dans son cœur. Oh, lui aussi avait des richesses qu'il a perdues. Il croyait que c'était juste lorsqu'il a quitté son père, qu'il a laissé tomber tout le monde en disant « Moi, maintenant, je vis pour moi ». À moi l'aventure et puis tout le reste. Des amis, il en avait, de tous les genres, enfin des deux genres en tous les cas. Et puis, il s'est retrouvé complètement dans la misère. Il est rentré en lui-même. Et à ce moment-là, eh bien, cet homme négatif dont nous parlons il y a un instant, il aurait compris que si la vérité que poursuit en vain lui a échappé et lui échappe, c'est qu'il la cherche dans les explications de sa raison, de sa propre raison, de ses propres convoitises, de ses insatisfactions qu'il veut à tout prix et bien véritablement combler, et non dans une attitude qui le pousse à se tourner vers Dieu, parce que Dieu est le Créateur. Il est à l'origine de tout, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur. Hein. Laisse rentrer Jésus dans ton cœur, et c'est la dernière chose que les gens veulent. Laissez Jésus prendre de la place, prendre la place, prendre toute la place, finalement, dans notre vie. C'est ça le grand problème, et c'est Christ, hein, c'est l'Évangile qui nous a dit ça. Alors, on pourrait penser que l'Ecclésiaste se prend pour un homme averti. C'est vrai qu'il dit des choses assez intéressantes. Et il ressemble tout simplement à une histoire que je vais vous raconter. Je vais vous en raconter deux. Vous avez bien fait de venir cet après-midi. Deux histoires. Mais la Bible, c'est déjà une histoire, hein, en quelque sorte. Hein. À ce paysan, tout simplement, c'était un peu un paysan, excusez-moi, il n'y a pas de préjugé, mais un petit peu grossier, un peu mal dégrossi, vous comprenez. Et puis, dans l'histoire, il nous a raconté que cet homme, ce pauvre homme, s'était cassé le bras et il souffrait beaucoup. Hein. Ça, c'est la conséquence. Alors, on a fait venir un soignant, un médecin qui est venu et le médecin lui dit « Mais ne crains rien, je vais remettre l'os en place et bientôt tu ne souffriras plus. » Écoutez bien, c'est dans l'ordre. « Je vais remettre l'os en place et après tu ne souffriras plus. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le pauvre paysan dit « Pas comme ça, hein, certainement pas. » Il dit le contraire. Il réplique de cette manière. « Enlève-moi d'abord la douleur, puis tu arrangeras l'os quand tu voudras. » Quand tu voudras. C'est l'inverse. Et vous savez que le monde fonctionne comme ça. Le monde a mal. Il a très mal. Il souffre cruellement. Et puis, il veut que les choses se fassent comme lui l'entend. Voilà. Tu gardes, tu enlèves ma souffrance, tu enlèves ma misère, tu enlèves ma détresse, mon angoisse, ma peine, la mort, etc., etc. Puis après, tu feras ce que tu voudras. Et le médecin, il procède pas comme ça. Hein. Ça vous est déjà arrivé d'aller aux urgences? Ah, c'est pas drôle, hein. On vous prend, mais sur une table, on commence à vous ouvrir de tous les côtés, puis après, on vous dit, tu souffriras plus. Personne va à l'hôpital cette semaine. Eh oui, mais je dis ça parce que ça fait sourire, mais c'est comme ça que le monde se comporte. Le problème, c'est comme ça. Je ne veux plus souffrir. Mais oui, mais il garde le problème et l'objet de la souffrance, il la garde en lui-même. Il dit après au médecin, bah, tu feras ce que tu voudras avec ça. Non, non. Pas comme ça que le médecin travaille, hein. Pas du tout. Alors, le docteur lui dit, mais tu es un insensé, tu ne comprends pas que c'est la cassure d'abord de ton os qui te fait mal. Laisse-moi raccommoder l'os et le mal s'en ira, c'est logique. Ah oui, ben, allez faire entendre ça aux gens aujourd'hui qui se plaignent, qui pleurent, qui prennent des médicaments par-dessus autant qu'ils peuvent en prendre et qui ne veulent pas voir la solution. J'ai mal. Puis on leur dit, mais il y a peut-être la réponse. Il y a la réponse, il faut laisser faire Dieu. Vous allez voir, il va se faire quelque chose. Il dit, non. J'ai mal. C'est vrai, quand on a mal, on a mal. Oui, mais quelque part, il faut quand même, avant de plus avoir mal, il faut passer par l'opération. C'est inéluctable, on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai que de gens répondent aujourd'hui quand on leur propose l'Évangile. Jésus qui est la solution à tout. Voilà. Et vous savez ce qu'ils nous disent, les gens? Vous allez d'abord nous aider à comprendre les mystères de l'Évangile, les mystères de la foi. Vous allez nous aider à comprendre ça pour satisfaire notre raison, en se disant, mais quand je comprendrai, ça ira mieux. Quand je comprendrai, j'aurai la foi. Quand je comprendrai, je pourrai accepter ce que vous me proposez. Tout simplement, satisfaire notre raison, notre intellect. Alors nos doutes s'évanouiront. Après, on croira naturellement. Et nous accepterons Jésus comme notre sauveur. Vous savez que les gens se croient, en raisonnant ainsi, tout simplement, les plus intelligents, parce qu'ils pensent que c'est par l'intelligence qu'on trouve les solutions. Vous avez vu ce que nous avons lu tout à l'heure? Hein, on l'a vu, hein. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Eh bien, vous savez que le monde n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Parce qu'en voulant passer par ce chemin-là, il va encore augmenter ses douleurs et ses souffrances. Alors, ils pensent que finalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Ils sont tout simplement comme cet homme, cet homme qui a eu un accident, hein, et qui voulait qu'on lui enlevât ou qu'on lui enlève la douleur avant de réparer la cassure. Tiens, cassure, rupture, ça a un sens aussi dans la Bible, naturellement. Parce que quand même, la Bible est claire, il y a cassure entre Dieu et l'homme. Et l'initiative, c'est pas Dieu qui a pris cette initiative de la cassure, c'est l'homme. Dieu est le médecin et l'homme est le patient, il est le malade. Et s'il y a quelqu'un vers lequel il peut se tourner, c'est pas les hommes avec leur commisération, leur amour et leurs compétences et tout ce que voudrait. C'est vers Dieu qu'il faut qu'il se tourne. Autrement, il n'y aura pas de solution. Donc, la cassure. Et c'est de cette cassure que tout notre être souffre aujourd'hui. Oui. On souffre physiquement, on souffre moralement, on souffre mentalement, on souffre psychologiquement, on souffre spirituellement. Parce que cette cassure, c'est pire que le brisement d'un os ou des os. Ah, c'est vrai que ça fait mal hein, quand on se casse un membre. Hein. C'est vrai que ça fait mal. Il faut qu'il soit réparé pour que l'on retrouve, pour qu'il retrouve la paix. Et la paix, c'est la jonction, c'est la réunion, c'est la relation, c'est la communion qui doit être réparée. Tant qu'il n'y aura pas ça, eh bien, il n'y aura pas la suite. Tout simplement. Moïse et les prophètes annonçaient cela à Israël. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, tout le temps. Et c'est ainsi qu'ils ont pu, en dénonçant Israël, en disant à Israël, en prêchant à Israël, son péché, objet, conséquence de cette cassure, ou objet de cette cassure. Mais ils ne prêchaient pas seulement le mal, ils prêchaient aussi le retour et le remède, ces vieux prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la repentance, la conversion. Et mettre ainsi l'humanité qui est venue jusqu'à nous, mettre ainsi et donner à l'humanité, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, mais je reprends une expression moderne, la boîte à outils, ouais, de réparation, pour que l'homme puisse véritablement retourner vers son Dieu et pour que son Dieu le guérisse. C'est ça. Et la boîte à outils, permettez-moi de le dire, c'est un livre. Alors on lit comme on veut, à l'endroit, à l'envers, on ne lit pas du tout. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons là, nous avons la science de Dieu. Ah, les Grecs, ils cherchent la sagesse. Ah, ils veulent voir des miracles, les Juifs. Mais Paul dira, mais moi, ce que je fais, la folie de la prédication, c'est d'annoncer Jésus et Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est crucifié. Autrement, il n'y aura pas de salut. Et il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de paix ni d'apaisement, naturellement. Je finis par cette petite deuxième histoire, je vous l'ai promis, hein, vous l'attendiez. Hein. Ouais, je voyais bien que vous êtes resté jusqu'ici pour la deuxième. Voilà. Alors, vous allez comprendre, c'est la moralité de ce que nous avons parlé cet après-midi. Cette histoire illustre la nécessité d'être guéri, réparé par Dieu. C'est lui qui répare. Vous l'avez déjà entendu pour certains, je le répète. Un jour, dans une ville, il y a un client qui fait irruption chez un horloger. Voilà. Hein? Il vient chez lui parce qu'il a un problème. Enfin, c'est pas tant lui qui a un problème, mais c'est plutôt sa montre qui a un problème. Alors, il vient devant le comptoir de ce monsieur et puis il apporte une petite enveloppe, tout simplement. Et il sort deux petites aiguilles. Bah, les aiguilles de la montre, vous comprenez. Il y a peut-être la trotteuse et puis la grande aiguille et la petite aiguille. Vous savez comment ça se passe. Hein? Alors, voilà, monsieur l'horloger, a dit le client, tout simplement, il faut réparer, voulez-vous, ou pouvez-vous me les réparer, ces aiguilles, parce qu'elles ne marchent pas, tout simplement. Ah, mais bien, très bien, monsieur, dit-il au client, mais il n'y a pas de problème, mais donnez-moi la montre. Et voilà. Alors, il n'était pas très, très inspiré, comme un client. Vous comprenez? Enfin, vous avez tout compris, je peux voir la suite, hein. Si, on va la faire quand même. Voilà. Mes aiguilles ne marchent pas. Seigneur, je suis malade. J'arrive pas à dormir la nuit. J'arrive pas à ceci et cela, etc., etc. La vie est épouvantable. Ceci, voilà. Ben oui, mais vous allez comprendre que ça marche qu'avec autre chose. Ça, c'est sûr. Alors, donnez-moi les aiguilles. Donnez-moi la montre. Et puis après, vous verrez comment les choses. Alors, le monsieur, il est pas content. Il trépigne. Comme quelquefois, nous trépignons d'impatience quand nous ne sommes pas contents, hein. Avec les hommes et avec Dieu aussi. Il tape du pied et disait, mais elles sont arrêtées, les aiguilles. Évidemment qu'elles sont arrêtées, elles peuvent pas marcher autrement. Alors le client, il insiste naturellement, et voilà, etc., etc. L'horloger, qui est embarrassé, parce que là, il se trouve devant un cas. Hein. C'est cornélien, on peut dire. Alors, embarrassé, il tente sans succès d'expliquer à son client qu'il lui faut quand même la montre pour réparer. Alors le client qui commence à se mettre en colère, il est furieux, etc., et il va claquer la porte en grommelant, mais cet horloger, il ne vaut rien, et puis moi, je ne ferai pas de publicité pour lui, etc., etc. Voilà. Et il ne sait pas réparer les aiguilles d'une montre, tout simplement. La conclusion de tout cela, eh ben la conclusion, vous l'avez déjà trouvée, vous la connaissez mais on va quand même la partager, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans notre monde qui agissent de la même façon à l'égard de Dieu. Seigneur, ils veulent bien de Dieu, ils veulent bien finalement, et ils attendent beaucoup de lui, mais ils se refusent de se livrer complètement. Voilà. Ils se refusent de lui donner leur vie, leur cœur, tout simplement. Alors, Dieu de leur répondre à ce monde, de répondre à ce monde en tous les cas, je t'exaucerai, parce que c'est ça, je te guérirai, je te délivrerai, je te sauverai, mais d'abord, donne-moi ton cœur. Ça, c'est la montre, hein. Pourvu qu'ils n'arrêtent pas, hein. Ah oui, c'est ça le problème. Et là, qui est le plus sage dans cette affaire? C'est le client qui est en train de se mettre en colère et qui dit « Ouais, j'y arrive à rien et c'est pas possible, la vie, c'est pas... c'est si Dieu existait, ceci et cela. » Ou alors c'est la réponse de Dieu « Mais dis donc, moi, je peux le faire en un instant. Ta vie peut changer en une fraction de seconde. Mais donne-moi ton cœur. » Eh oui, donne-moi ton cœur. Parce que vous avez compris, parce que peut-être que si vous ne l'avez pas compris, mais je crois que vous l'avez compris quand même, que pour réparer les aiguilles d'une montre, il faut amener la montre aussi, parce qu'il faut la mettre dessus, vous comprenez, tourne dessus. S'il n'y a pas l'un et l'autre, ça ne fonctionne pas. Et un cœur qui tourne à vide, un cœur qui tourne sans Dieu, c'est un cœur qui aura toujours des problèmes. Il aura des problèmes physiquement, il aura des problèmes moralement, il aura des problèmes dans tous les domaines, parce que le cœur même du fonctionnement de la vie, eh bien, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Alors, le Seigneur nous dit dans le livre des Proverbes, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. » Alors, si vous avez un problème d'horlogerie, je peux vous indiquer quelqu'un de bien pour réparer le problème que vous avez. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Voilà le livre de l'Ecclésiaste, voilà ce qu'il peut vous dire. Et ce qu'il veut dire, que Dieu nous donne, eh bien, sa grâce et sa bénédiction, et soyons intelligents. Oui, ce n'est pas par la sagesse, ce n'est pas par les miracles, mais c'est véritablement, eh bien, à cause de Jésus-Christ, que nous avons toute réparation possible qui nous donne la vie, la paix et le bonheur. On va prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, merci Seigneur, parce que nous croyons que ta parole, elle est merveilleuse. Ta parole, elle est infinie, elle nous ouvre des voies, elle nous ouvre des possibilités, elle nous donne de comprendre l'incompréhensible. Elle nous donne, Seigneur, d'aller là peut-être sur des chemins et des voies que nous n'avions jamais imaginées parce que nous avons toujours fonctionné avec une perspective humaine, horizontale, mais jamais verticale. Seigneur, pour en arriver, Seigneur, à cette position, Seigneur, de notre monde, de notre vie, des autres, de nous-mêmes, il faut d'abord que nous regardions en haut, que nous regardions à Dieu, qui lui va nous donner de nous connaître, qui va nous donner de connaître les autres, qui va nous donner la révélation de certaines choses qui sont, Seigneur, indispensables, eh bien, au salut, au vrai bonheur, à ton pardon, à une espérance éternelle. Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, si tu veux réparer en effet, Père éternel, notre vie, nous avons besoin de te donner notre cœur. Et une fois que nous aurons donné notre cœur, notre vie ira mieux. Elle ira bien. Et Seigneur, nous pourrons vraiment, eh bien, reconnaître que c'est toi qui es l'auteur, créateur de toutes choses. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.